Good afternoon.
Bonjour, chers collègues. Merci pour votre patience. Le secrétaire général va maintenant vous parler de la réunion à venir des ministres des Affaires étrangères ainsi que du Conseil OTAN Russie qui vient de se terminer. Bonjour. Les ministres des Affaires étrangères alliés vont se réunir demain pour discuter de l'adaptation de l'OTAN à un environnement sécuritaire en pleine évolution. Nous allons réaffirmer le bien vital qui unit l'Europe et l'Amérique du Nord et sur lequel repose notre sécurité. Nous allons jeter les bases pour la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN à Bruxelles le 25 mai. Lors de la première session demain, nous allons réfléchir à la façon dont nous pouvons renforcer le lien transatlantique avec des dépenses de défense accrues, améliorées et un partage plus équitable du fardeau au sein de l'Alliance. Le rôle de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme et la projection de la stabilité sera également à l'ordre du jour. Nous allons faire le bilan de notre travail avec les partenaires, y compris nos efforts en Irak. Les formations que nous proposons aideront les forces irakiennes à lutter contre Daesh. Et nos cours de lutte contre les engins explosifs imprévus permettront de sauver des vies. Nous aurons également une réunion de la Commission OTAN-Ukraine, ce qui est un signal fort envers notre engagement envers l'Ukraine face aux actions de la Russie. Nous allons examiner la situation sécuritaire, les progrès réalisés par l'Ukraine dans le cadre des réformes, ainsi que le soutien politique et pratique de l'OTAN envers Kiev. Cette semaine, notre programme Science pour la paix et la sécurité répond à une demande d'aide de l'Ukraine suite à l'explosion d'un entrepôt d'armes à Balaklia. Nous sommes en train de fournir des protections personnelles, d'équipements de déminage ainsi que des systèmes radio. Demain, nous allons également évaluer les implications de la montée en puissance militaire russe en Europe et au-delà, avec des partenaires clés, la haute représentante de l'Union européenne ainsi que la Finlande et la Suède. L'OTAN a une position unie sur la Russie, une défense et une dissuasion solides combinées au dialogue. Et nous nous acquittons de ces deux axes. Alors, quelques mots s'agissant du Conseil OTAN Russie. J'ai donc présidé cette réunion qui a été longue. Nous avons eu une réunion constructive avec un dialogue très franc. C'était la première réunion du Conseil OTAN Russie cette année. Les alliés et la Russie continuent à avoir des désaccords évidents s'agissant de la crise en Ukraine et autour de l'Ukraine. C'était donc le premier point abordé aujourd'hui. Et la situation en matière de sécurité continue à être très préoccupante. Les violations du cessez-le-feu à l'est de l'Ukraine sont sans précédent. Les combats intenses se poursuivent et les armes lourdes n'ont pas été retirées. Plus tôt cette semaine, l'OSCE a fait rapport du fait que des armes interdites étaient utilisées à un rythme de presque deux fois par minute. Et les observateurs de l'OSCE ne sont pas en mesure de faire leur travail. Ils sont limités quant aux endroits où ils peuvent se rendre et parfois ils deviennent des cibles. Les accords de Minsk prévoient un plan pour le règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine. Mais la plupart de ces dispositions ne sont pas mises en œuvre. Nous demandons à tous les signataires de respecter pleinement leurs engagements. Aujourd'hui, les alliés ont exhorté la Russie à utiliser l'influence qu'elle a sur les militants afin qu'ils tiennent leurs engagements. Et nous avons indiqué notre préoccupation s'agissant de la reconnaissance par la Russie de documents d'identité délivrés par les séparatistes, l'imposition de la rouble et la saisie de sociétés. Tous les alliés ont répété leur soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les alliés ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront pas l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Nous avons également parlé de la situation sécuritaire très difficile en Afghanistan. Il est dans l'intérêt de tous de continuer à aider les forces afghanes à être en mesure d'assurer leur propre sécurité. Et c'est ce que l'OTAN et ses partenaires font actuellement, par le biais de formation et de financement. Il est important que tous les acteurs soutiennent les efforts de réconciliation en Afghanistan. Enfin, nous avons abordé les activités militaires, ainsi donc que l'amélioration de la transparence et la réduction des risques. Lors du Conseil OTAN-Russie en décembre, nous avons pu avancer dans ces domaines. L'OTAN a présenté un exposé sur l'exercice Trident Juncture 2016 et la Russie a présenté un exposé sur l'exercice Kafkaz 2016. Aujourd'hui, nous avons franchi un nouveau pas en échangeant sur nos postures militaires respectives. La Russie a présenté un exposé sur les trois nouvelles divisions dans son district militaire occidental et l'OTAN a présenté un exposé sur les quatre groupements tactiques qui sont en train d'être déployés en Pologne et dans les pays baltes. Je me félicite par avance des exposés futurs dans ce même souci de transparence. Ceci a été une réunion importante qui portait sur des sujets d'intérêt commun. Le dialogue n'est pas simple, mais c'est un dialogue auquel nous restons attachés. Lorsque les tensions sont importantes, il est particulièrement important de poursuivre le dialogue afin de renforcer la prévisibilité et réduire les risques. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Question. Les réunions du Conseil OTAN-Russie se tiennent plus régulièrement. Est-ce que vous pensez que ce rythme va se poursuivre? Et lorsque vous échangez sur les forces militaires, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de transparence à l'avenir ou est-ce qu'il y a encore des obstacles, notamment à cause de la modernisation du document de Vienne et d'autres outils qui seraient utiles afin de renforcer la transparance avec la Russie. Réponse. En 2014, l'OTAN a suspendu toute coopération pratique avec la Russie en réaction à l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Mais nous avons décidé de garder les canaux de communication, de dialogue politique ouverts, ainsi que les canaux de communication militaire. C'est toujours la même chose aujourd'hui. Le Conseil OTAN-Russie n'a jamais été suspendu. Mais entre l'été 2004 et l'été 2016, nous n'avions pas réussi à organiser de réunions, mais le Conseil n'a jamais été suspendu en tant que tel. Nous avons pu organiser trois réunions en 2016 et nous avons maintenant eu la première de 2017. Nous souhaitons avoir un dialogue plus régulier, des réunions plus régulières dans le cadre du Conseil OTAN-Russie, donc un dialogue ciblé de fond, et c'est ce que nous faisons dans le cadre du Conseil OTAN-Russie. L'idée ici, c'est d'utiliser le Conseil pour un dialogue politique et plus de transparence, pour avoir plus de prévisibilité, de transparence au niveau des relations entre l'OTAN et la Russie. Et nous avons d'ailleurs bien progressé. Nous avons eu des exposés sur les exercices l'année dernière. Et aujourd'hui, la Russie nous a parlé de ces trois nouvelles divisions dans le district militaire occidental. Et l'OTAN a présenté un exposé sur les quatre groupements tactiques. Donc cela aide également à plus de prévisibilité, de transparence. Donc c'est un pas dans la bonne direction, mais nous souhaiterions faire plus encore. Nous souhaiterions plus d'exposés et plus de transparence s'agissant des exercices militaires à venir, par exemple. Et ces exposés lors du Conseil OTAN-Russie ne peuvent pas se substituer à la transparence obligatoire qui doit se faire dans le cadre de l'OCE, de l'OSCE et du document de Vienne. Et nous travaillons encore à la modernisation du document de Vienne. Mais il ne s'agit pas ici de choisir l'un ou l'autre de ces moyens. Nous avons besoin de ces deux outils pour renforcer la prévisibilité et la transparence pour les relations OTAN-Russie. Question. Radio Lettone. Je suppose, monsieur le secrétaire général, que vous avez parlé de l'exercice avec l'ambassadeur russe. Est-ce que vous avez pu parler d'une invitation afin d'observer l'exercice? Et c'est une question qui préoccupe beaucoup les États baltes, puisque les exercices se tiendront très proches de nos frontières. Réponse. De nombreux alliés ont soulevé cette question des exercices Zapad à venir. Et nous avons clairement dit que nous souhaiterions avoir un exposé avant cet exercice dans le cadre du Conseil OTAN-Russie. Et bon nombre d'alliés ont également indiqué qu'il fallait respecter le document de Vienne, à savoir une pleine transparence pour ce qui était de ces exercices internationaux et pour ce qui est de l'observation. Alors, il est trop tôt pour dire si on va se mettre d'accord sur des exposés préalables aux exercices au sein du Conseil OTAN-Russie, donc par exemple en ce qui concerne Zapad 2017, mais évidemment c'est une question que nous examinons et il serait bon que nous puissions avoir des exposés sur les exercices avant qu'ils se tiennent. Question. Agence de presse russe. Monsieur le secrétaire général, puisque ces réunions sont plus régulières, est-ce que vous pensez qu'il serait bon d'avoir une réunion au niveau ministériel, peut-être, soit les ministres des Affaires étrangères ou les ministres de la Défense? Réponse. Lorsque nous avons décidé de suspendre la coopération pratique en 2014, nous avons également décidé, comme je l'ai dit, de permettre le dialogue politique au sein du Conseil OTAN-Russie. Et nous avons décidé de maintenir ce dialogue politique au niveau des ambassadeurs et au-delà. Donc, en effet, nous pourrions convoquer des réunions à des niveaux supérieurs, donc au niveau ministériel. Cela s'est déjà fait. J'ai moi-même participé à de telles réunions en tant que Premier ministre de la Norvège lorsque nous avions des réunions du Conseil OTAN-Russie au niveau ministériel et même au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Mais il n'y a eu aucune discussion jusqu'ici s'agissant de ce type de réunion et donc je ne souhaite pas spéculer à ce sujet. Question. Monsieur le secrétaire général. L'OTAN a changé la date de la ministérielle des Affaires étrangères qui a été avancée du 5 avril au 31 mars. Est-ce que cela a été fait afin de permettre la participation du secrétaire d'État américain? Est-ce que son adjoint Tom Shannon n'aurait pas pu représenter les États-Unis lors de la réunion prévue le 5 avril? Vous avez raison. Réponse. Vous avez raison. Nous avons modifié la date. Initialement, la ministérielle était prévue pour le 5 et le 6 avril. Et ensuite, nous avons constater que ça n'irait pas pour le secrétaire d'État Tillerson. Et nous avons estimé que le fait que nous soyons en mesure de trouver une nouvelle date qui satisfasse les 28 ministres de l'Alliance faisait preuve de notre souplesse et le fait que le lien transatlantique était très fort. Et pour nous, il est important d'accueillir le secrétaire d'État Tillerson ici, car il est nouveau à ce poste et nous souhaitons qu'il participe à une réunion OTAN à Bruxelles. Et cela envoie un message fort s'agissant du lien transatlantique. Et également le fait que les États-Unis, évidemment, sont très attachés à la sécurité de l'Europe et de l'OTAN. Donc les réunions demain seront certainement très intéressantes. Et d'ailleurs, le message demain sera le même que celui qui a déjà été relayé par le vice-président Pence lorsqu'il était à Bruxelles il y a quelques semaines. Également, le secrétaire à la Défense Mattis et également le secrétaire Kellogg, toutes ces personnes sont venues à Bruxelles et ont envoyé un message fort de soutien à l'OTAN envers le lien transatlantique. Et donc nous serons très heureux de l'accueillir demain. Question, Andrew Hamilton, NBC. Je vais vous poser une question sur la Turquie, mais tout d'abord, puisqu'il y a 27 pays qui ont changé, qui ont adapté leurs ordres du jour afin de pouvoir accueillir le secrétaire d'État Tillerson, est-ce que vous pensez que du fait que les ministres ont fait cet effort, le secrétaire d'État Tillerson ne critiquera pas les autres pays de l'OTAN, sachant qu'ils ne respectent pas les 2%. Maintenant, pour ce qui est de la réunion avec le président Erdogan qui portait sur la lutte contre Daesh, est-ce qu'il est important que la Turquie n'ait moins de réserves s'agissant des combattants kurdes, notamment pour ce qui est du plan de bataille s'agissant de Raqqa? Réponse. Alors, je pense que demain, le secrétaire d'État Tillerson aura une intervention qui aurait été exactement la même le 5 ou le 6 avril. Alors, évidemment, je pourrais vous en dire plus suite à la réunion de demain, mais de toute façon, le président Trump, j'ai déjà pu parler deux fois avec lui au téléphone et nous avons également eu une réunion avec le secrétaire à la Défense Mattis, le vice-président Pence et j'étais la semaine dernière moi-même à Washington et à chaque fois, le message a été le même, un lien transatlantique fort, un soutien fort à l'OTAN, mais dans le même temps, il faut que les alliés respectent les engagements pris en 2014, donc mettre un terme à la diminution des dépenses de défense et atteindre les 2% du PIB au bout d'une décennie. Donc ça, c'est la position certes des États-Unis, mais également la position officielle de l'OTAN. Et depuis que je suis devenue secrétaire générale en 2014, je fais de mon mieux afin que cette décision qui a été prise soit mise en œuvre, donc mettre un terme aux coupes budgétaires et accroître pour atteindre les 2%. Donc voilà, c'est le message envoyé par tous les représentants américains, le président, les secrétaires, les différents ministres, et de toute façon, c'est ce sur quoi l'OTAN s'est mis d'accord en 2014. S'agissant de la situation en Syrie et Raqqa, l'OTAN n'est pas présente sur le terrain en Syrie. Les alliés de l'OTAN, oui, ils contribuent de différentes façons à la lutte contre Daesh, mais l'OTAN, en tant qu'alliance, n'est pas présente en Syrie. Mais nous soutenons la coalition internationale, nous formons des officiers irakiens en Irak. D'ailleurs, nous renforçons nos activités dans ce cadre-là. Et nous proposons un soutien par le biais de nos avions AWACS pour améliorer la connaissance de la situation pour la coalition. Alors, je ne veux pas entrer ici dans des détails opérationnels s'agissant de cette campagne qui a lieu actuellement dans le nord de la Syrie. Je me félicite du fait que deux alliés, les États-Unis et la Turquie, se sont rencontrés afin d'essayer de voir comment lutter au mieux contre Daesh, et ce, de façon optimale dans le nord de la Syrie.
Question. Avez-vous plus de clarté sur cette situation? Réponse. Non, encore une fois, l'OTAN n'est pas présent dans cette zone. Nous soutenons la coalition menée par les États-Unis, mais je crois qu'il va falloir voir quels seront les résultats une fois que les différents rapports auront été rendus, les évaluations aussi. Nous attendons le résultat de ces documents. Question. Oui, merci. Aujourd'hui, Moscou a signé un accord avec l'Ossétie du Sud, les forces armées on a vu une militarisation de la région, donc j'aimerais savoir un peu ce que vous pensez des sanctions. Eh bien, réponse. En tant qu'OTAN, nous respectons pleinement l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Géorgie. L'Ossétie du Sud fait partie de la Géorgie. Nous ne reconnaissons donc pas et ne reconnaîtrons jamais l'Ossétie du Sud comme autre chose qu'une région de la Géorgie. Nous avons déjà fait passer ce message de manière très claire à la Géorgie, à maintes reprises. Nous continuerons donc d'apporter un soutien politique fort à la Géorgie, mais également un soutien pratique à ce pays. Nous pensons également que ce que fait la Russie sape les efforts de négociation pour trouver une solution pacifique et durable à cette situation. Le Kabul Times. Oui, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, vous mentionnez ce qui s'est dit au Conseil sur l'Afghanistan. Pourriez-vous donner quelques explications supplémentaires sur ce point? Parce que la Russie qui mène les négociations de paix avec les talibans et les autres pays ne sont pas invités officiellement et n'ont pas invité officiellement les États-Unis, qui pourtant est un membre important de l'OTAN. Qu'en pensez-vous? Merci. Réponse. Eh bien, d'abord, l'OTAN continue de soutenir le gouvernement d'unité nationale, continue d'aider les forces afghanes dans leur entraînement, leur formation. Il y a encore beaucoup de problèmes, de défis qui se posent, la violence, les victimes en Afghanistan. Mais au moins, nous avons pu entraîner, former les forces nationales de sécurité afghanes qui sont maintenant à la tête des opérations dans leur pays. Et nous continuerons de les aider, de les entraîner et de fournir un soutien financier à ces dernières. Nous soutenons également le processus de paix, processus de réconciliation, qui doit être mené néanmoins par les Afghans, pour les Afghans. C'est un effort mené par l'Afghanistan, pour l'Afghanistan. Et nous allons essayer d'aider à trouver une solution pacifique au conflit en Afghanistan et à la violence en Afghanistan. Mais ça doit être mené par les Afghans. Voilà le message principal de l'OTAN. Le Washington Post, au deuxième rang. Oui, bonjour, Michael Grunbaum du Washington Post. Je voulais demander, dans le contexte du Conseil en Russie, si le traité INF a été abordé et si la Russie a violé ce traité et si oui, dans quelle mesure? Réponse. Eh bien, ça n'a pas été une question qui a été abordée aujourd'hui. Donc, je n'ai rien à dire par rapport à ce qui s'est dit au Conseil. Maintenant, je sais que les États-Unis ont informé les alliés et en sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, la Russie a violé le traité. Or, ce traité est important puisqu'il abolit toute une catégorie d'armes nucléaires, notamment des missiles, en Europe. Nous pensons que tout le monde se souviendra des années 80 et de l'importance d'abolir ce genre d'armes nucléaires qui font vraiment augmenter les tensions, on s'en souviendra, d'où la signature du traité en 1987. Nous sommes en faveur du contrôle des armements, de la réduction de ce type d'armes, et nous soutenons le traité. Mais ça n'a pas été abordé aujourd'hui au Conseil, autant Russie. El País. Oui, sur le ministériel. Qu'envisagez-vous en termes de renforcement du rôle de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme? Envisagez-vous éventuellement une contribution plus importante à la contribution contre l'État islamique, différente de ce que vous venez de mentionner? Réponse. Nous discuterons du rôle de l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme. Nous le ferons en gardant à l'esprit la réunion des chefs d'État et de gouvernement du 25 mai. L'important, c'est de comprendre que la ministérielle ici est vraiment un tremplin vers cette réunion du 25 mai. Le président Trump sera à ce moment-là à Bruxelles pour rencontrer les autres dirigeants de l'OTAN. Et lors de cette réunion de chefs d'État et de gouvernement en mai à Bruxelles, la question de la lutte contre le terrorisme sera au cœur de toutes les préoccupations. Demain, nous préparerons donc cet effort et nous verrons comment l'OTAN peut encore agir. Nous en reparlerons en mai. J'attends aussi de pouvoir rencontrer le président Trump le 12 avril à la Maison-Blanche. J'y serai également pour ce qui est de la préparation de la réunion extraordinaire à Bruxelles en mai. Et je suis sûre que la lutte contre le terrorisme et la contribution de l'OTAN à ce titre sont une des questions clés que nous aborderons à ce moment-là. Nous essayons de voir ce que nous pouvons faire d'autre. Nous entraînons des officiers irakiens en Jordanie depuis quelque temps. Nous commençons à faire la même chose en Irak. Nous fournissons un soutien, notamment avec nos avions AWACS. Et nos efforts en Afghanistan portent aussi sur la lutte contre le terrorisme pour éviter justement que ce pays ne devienne un refuge pour le terrorisme. Donc nous en reparlerons demain. Et nous verrons ensuite quels sont les résultats de la réunion de demain, afin aussi de préparer la réunion de mai. National Times au troisième rang. Merci. Arthur Beasley. Monsieur le secrétaire général, y a-t-il des plans en cours selon lesquels les États membres voudraient intensifier les dépenses militaires telles que le demande la nouvelle administration américaine? Réponse. Pour l'instant, on essaie de conserver notre élan. Nous voyons des évolutions positives pour ce qui est des dépenses de défense à travers l'Europe et aussi au Canada, ce qui veut dire qu'après de nombreuses années de coupes claires dans les budgets de défense, après cet engagement en 2014, nous commençons à voir des résultats, notamment en 2016, nous avons vu des augmentations assez significatives en Europe et au Canada pour ce qui est des dépenses de défense. Il s'agissait de 3,8% en termes réels, soit 10 milliards de dollars américains. Et donc sur cet élan, je crois qu'on va pouvoir capitaliser sur cet élan pour arriver aux 2% dans 10 ans. Mais ce n'est qu'une première étape. Il va falloir s'assurer de continuer sur cette lancée. En ce moment, nous essayons de voir comment maximiser justement la probabilité de continuer à ce rythme. Et l'un des outils que l'on est en train d'étudier, ce sont justement les plans nationaux. Tous les pays doivent développer des plans nationaux dans lesquels ils expliqueront comment ils peuvent mettre en œuvre ou concrétiser les engagements pris en 2014 sur les dépenses de défense. Ce qui veut dire que le plan doit aussi expliquer comment augmenter ces dépenses de défense, mais également les autres éléments de prise de décision qui résultent de la décision prise en 2014. Comment utiliser ces fonds supplémentaires, ces moyens financiers, ce financement, afin d'avoir plus de capacités et pour mieux contribuer aux opérations et aux missions de l'organisation. Donc, ce ne sont pas seulement les dépenses de défense, mais également les capacités, la livraison de capacités militaires et une amélioration de la participation aux missions et opérations de l'organisation. Il s'agit donc de développer des plans nationaux pour que chaque pays puisse décrire dans quelle mesure il pourra fournir des résultats. Politico, dernière question au fond de la salle. Monsieur derrière avec les lunettes. Merci beaucoup, David Herzen, Politico. Alors, sans vouloir proroger le débat, vous avez travaillé très dur pour contacter Washington, mais si on regarde ce que fait l'administration Trump plutôt que ce que dit cette administration, qu'ils ont nommé comme ambassadeur à l'OTAN, on voit que le secrétaire Tillerson était prêt à ne pas participer à la ministérielle. Donc, avez-vous des doutes par rapport à ce que va demander Tillerson, à part une augmentation des dépenses de défense, question à laquelle vous avez déjà répondu? Et une deuxième question sur l'Ukraine. Pour revenir sur les chiffres et les armes dont vous avez mentionné qu'elles étaient utilisées 2 fois par minute, pensez-vous qu'il n'y a pas vraiment de cessez-le-feu? Ou est-ce qu'il va falloir dire que ça a été abandonné ou que c'est un conflit qui n'est donc plus un cessez-le-feu? Réponse. En fait, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Donc, effectivement, Il va falloir faire le maximum pour s'assurer que ce dernier soit respecté. On a sur papier un cessez-le-feu qui ne fonctionne pas de facto. Pour moi, ce n'est pas un argument contre l'existence d'un cessez-le-feu. Au contraire, c'est un argument pour s'assurer que ce dernier soit pratiquement respecté. La meilleure façon de le faire, c'est de s'assurer que les observateurs aient un plein accès aux zones, qu'ils puissent inspecter la région, voir si le cessez-le-feu est respecté, mais également vérifier que l'artillerie lourde soit retirée de la zone de contact. Donc ce n'est pas simple. On a essuyé pas mal de déceptions, mais je ne vois pas d'autre solution pacifique à ce différend, à ce conflit dans l'est de l'Ukraine et la mise en œuvre à plein des accords de Minsk. Mais vous avez raison, le cessez-le-feu ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle il va falloir faire le maximum pour s'assurer justement qu'il soit respecté et donc donner un plein accès aux observateurs internationaux. Ensuite, pour la question des États-Unis. Effectivement, le message de l'administration et du président est assez unifié, assez cohérent. Ce que j'ai pu entendre au téléphone du secrétaire Mattis, du secrétaire Tillerson, du président, du vice-président Pence, tout cela, c'est un message qui est très unifié. Ils sont très fortement engagés auprès de l'Alliance et sur le lien transatlantique, parce qu'ils voient quelle est l'importance de l'OTAN pour l'Europe, mais aussi pour les États-Unis. Deux guerres mondiales et la guerre froide, ce n'est pas rien. Donc, c'est important pour l'Europe, mais également pour les États-Unis. Et la seule fois où on a parlé d'article 5, c'était après justement l'attaque contre les États-Unis. Des centaines de milliers de soldats européens et de pays partenaires sont allés porter main forte aux États-Unis en Afghanistan et ont fait le sacrifice ultime en Afghanistan dans une opération qui était une réponse directe à une attaque contre les États-Unis. Donc je suis intimement convaincue que le président et son administration comprennent l'importance de l'OTAN pour la sécurité européenne, mais également pour les États-Unis. Leur engagement envers l'OTAN, ce sont des mots qui sont effectivement suivis des faits. Le secrétaire de la Défense est déjà venu à l'OTAN. Le président sera là au mois de mai. Je le verrai en avril. Il ne s'agit pas seulement de réunions, mais aussi sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'exprime pas seulement des mots. Le soutien n'est pas purement oral, mais ce que nous voyons aussi, pratiquement parlant, en Europe, notamment une augmentation de la présence militaire américaine. Nous avons vu le déploiement d'une nouvelle brigade armée blindée. Donc c'est une augmentation et non pas une diminution de la présence militaire américaine en Europe. C'est la première fois aussi qu'on voit une brigade blindée des États-Unis en Europe. Et ensuite de cela, les États-Unis augmentent aussi leurs investissements, leurs équipements, le prépositionnement d'équipements et tout ce qui est carburant, munitions. Donc il y a un engagement fort des États-Unis sur le lien transatlantique. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont aussi des actions. Et nous le voyons très clairement en Europe aujourd'hui, encore une fois, avec une présence américaine intensifiée en ce moment même. Merci. Nous n'avons pas le temps de prendre d'autres questions. Nous vous voyons demain matin. À demain.